Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grodidier avec vous, en compagnie d'Anne Arbertson. En ce jeudi 11 septembre, bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Dans un discours à la Nation mercredi soir, le président Barack Obama a proposé d'élargir l'offensive militaire américaine contre les militants de l'État islamique.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Notre objectif est clair. Nous allons affaiblir et finalement détruire l'État islamique par une stratégie globale et soutenue contre le terrorisme, a déclaré le chef de l'exécutif.
Ici, Akaba aura tous les détails. Ouverture prochaine d'une école de journalisme au Mali.
L'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication sera ouverte dès la rentrée prochaine. Cette école est située à Dar es Salaam.
On suivra les précisions de Kassim Traoré et la fondation Bill et Melinda Gates va verser 50 millions de dollars pour aider à lutter contre l'épidémie de virus à Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, le journal. Camille Grodidier avec vous. Dans un discours à la Nation mercredi soir, le président Barack Obama a proposé d'élargir considérablement l'offensive militaire américaine contre les militants de l'État islamique, promettant un acharnement à éliminer les terroristes partout où ils existent. Le point avec Issia Kaba.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Notre objectif est clair. Nous allons affaiblir et finalement détruire l'État islamique par une stratégie globale et soutenue contre le terrorisme, a déclaré le chef de l'exécutif. M. Obama a dévoilé la nouvelle stratégie de son administration face à l'essor de l'extrémisme islamique au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Il s'agira notamment de former et d'armer les forces de sécurité irakiennes et des combattants de l'opposition syrienne pour aider les deux groupes à affronter l'État islamique. Tout d'abord, nous allons mener une campagne systématique de raids aériens contre ces terroristes. De concert avec le gouvernement irakien, nous allons intensifier nos efforts au-delà de la protection de notre personnel et des missions humanitaires, de sorte que nous frapperons les cibles de l'État islamique alors même que les forces irakiennes passent à l'attaque, a déclaré M. Obama. En outre, j'ai clairement fait savoir que nous allons traquer les terroristes qui menacent notre pays où qu'ils se trouvent. Mais M. Obama a souligné que la lutte contre les militants islamistes, extrémistes, différa des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les forces américaines n'auront pas une mission de combat, nous ne serons pas entraînés dans une guerre terrestre en Irak. Plutôt, les États-Unis déploieront des militaires pour appuyer les forces irakiennes et kurdes en leur fournissant une formation, des renseignements et des équipements.
Tonight, I call on Congress again to give us additional authorities.
Ce soir, je demande à nouveau au Congrès de nous donner des forces et ressources supplémentaires. Le président a également discuté de la possibilité d'étendre les frappes aériennes américaines contre les bastions des militants en Syrie et il a indiqué que les alliés des États-Unis sont prêts à participer à la campagne menée par Washington contre le terrorisme international. Avec un nouveau gouvernement irakien en place et suite aux consultations avec nos alliés à l'étranger et avec le Congrès ici, je peux vous annoncer que l'Amérique va prendre la tête d'une large coalition pour faire reculer cette menace terroriste, a-t-il dit. Le président américain a tenu à évoquer la responsabilité des États-Unis à diriger.
Our own safety, our own security.
Notre propre sécurité dépend de notre volonté à faire ce qu'il faut pour défendre cette nation et défendre nos valeurs, des idéaux intemporels qui perdureront longtemps après que ceux qui ne proposent que la haine et la destruction auront été bannis de la terre.
Have been vanquished from the earth.
Le Sénégal ne compte aucun cas d'Ebola, annonce faite hier par Awa Marie Colsec, ministre sénégalaise de la Santé. Des précisions avec Michel Joseph.
L'unique personne atteinte de l'Ebola, qu'ont enregistré les autorités sanitaires sénégalaises, est un étudiant guinéen rentré de son pays au mois d'août. Soigné dans un hôpital de Dakar, il ne présente plus de traces d'Ebola, selon la ministre sénégalaise de la Santé.
Les résultats des dernières analyses effectuées sur le cas importé de fièvre à virus Ebola sont négatifs. Ces résultats attestent la guérison du patient qui n'est plus contagieux. En conséquence, à la date d'aujourd'hui, le Sénégal ne compte aucun cas de maladie à virus Ebola.
En outre, a précisé Mme Awa Marie-Cole Sec, les 67 personnes ayant eu un contact avec le patient au moment où il venait d'arriver de Guinée ne montrent pas de signes de la maladie et sont toujours sous surveillance. Le Sénégal continue de demeurer vigilant et renforcera les mesures de surveillance et les frontières aériennes, terrestres et maritimes avec les pays où sévit l'Ebola resteront fermées, a ajouté la ministre sénégalaise de la Santé.
La fondation Bill et Melinda Gates va verser 50 millions de dollars pour aider à lutter contre l'épidémie de virus à Ebola en Afrique de l'Ouest. La fondation, dont le siège se trouve à Seattle, aux États-Unis, a précisé qu'elle va donner immédiatement des fonds à l'ONU et à d'autres organismes internationaux d'aide pour l'achat de fournitures médicales et pour appuyer des opérations d'urgence aux pays affectés par l'épidémie.
La Fondation Gates compte également travailler avec ses partenaires pour accélérer le développement de thérapies, vaccins et tests de diagnostic. Signalons aussi que l'ONU a alloué 3,8 millions de dollars au service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies pour aider à transporter l'aide, des fournitures, du matériel et du personnel vers les pays frappés par le virus Ebola. On sait que nombre de compagnies aériennes ont cessé de desservir l'Afrique de l'Ouest.
Selon l'agence France Presse, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, médiateur du conflit soudanais, fait état de progrès dans les pourparlers. Sarah Diaby.
Après un entretien avec le président soudanais Omar el-Béchir hier à Khartoum, M. Thabo Mbeki a déclaré qu'un accord a été signé entre l'UIA et le Front révolutionnaire soudanais. Pour lui, cet acte constituait un grand pas concernant la question du dialogue national et ouvrait la voie à un grand succès. Réunis à Addis Abeba, les deux parties se sont engagées à une résolution pacifique des conflits au Soudan et à participer à un dialogue national. Le Front révolutionnaire soudanais est une alliance de rebelles armés du Darfour, du Cordon Fan Sud et de l'Est du Nil Bleu. Le parti d'opposition Ouma a également signé un accord avec l'UIA, de même que des représentants des deux autres partis d'opposition qui ont accepté de se joindre au processus. Le président soudanais Omar el-Béchir avait annoncé en janvier l'amorce d'un dialogue national avec les rebelles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que les Américains marquent aujourd'hui le 13e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à Washington et à New York, un nouveau sondage montre que 4% des Américains considèrent le terrorisme comme le problème numéro un des États-Unis. Il y a 4 ans, il n'était que 1% à partager cette opinion.
Aujourd'hui, les Américains se préoccupent davantage de l'économie, du chômage, de l'immigration, note l'Institut Gallup qui a réalisé le sondage.
La fiancée d'un militant présumé de l'État islamique a plaidé coupable hier à des chefs d'accusation de terrorisme devant un tribunal du Colorado. Le point avec Timothée Donangmaï.
Shannon Conley, une Américaine de 19 ans, a reconnu à la barre hier avoir subi un entraînement terroriste en vue de prêter main forte aux djihadistes se battant en Syrie, y compris son fiancé qu'elle a rencontré sur Internet. L'adolescente a révélé avoir été formée dans un camp de type militaire ici même aux États-Unis et avoir reçu un certificat en soins infirmiers pour aider les combattants islamistes sur le terrain. Après de multiples tentatives de décourager Shannon Conley de quitter les États-Unis pour l'étranger, les agents fédéraux l'ont finalement arrêtée dans un aéroport alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler à destination de la Turquie. Elle sera fixée sur son sort lorsque sa sentence sera rendue en janvier. La jeune fille risque jusqu'à 5 ans de prison.
L'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide est assigné à résidence depuis hier, une mesure conservatoire en attendant que l'inculpé réponde devant la justice de 5 chefs d'accusation. Lola Akomatsri nous en dit davantage.
Mardi, le juge Lamar Bélisère a ordonné à la police judiciaire et à l'administration pénitentiaire d'assigner l'ex-président à sa résidence de Tabar, au nord de Port-au-Prince. Outre cette ordonnance, le juge a également restreint la liste des personnes habilitées à rendre visite à l'ancien chef d'État. Cette décision fait suite au refus de Jean-Bertrand Aristide de répondre à la convocation du juge d'instruction Bélisère le 13 août dernier et à la lenteur constatée dans l'exécution du mandat d'amener qui a été délivré contre lui. Rappelons que l'ex-président Aristide est inculpé pour trafic illicite de drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture et concussion et blanchiment des avoirs. un dossier impliquant une trentaine de personnes, dont d'anciens membres de son gouvernement entre 2001 et 2004.
Enfin, nouvelle manifestation à Ferguson dans le Missouri, la localité où des troubles ont été signalés depuis la mort le 9 août d'un jeune noir, Michael Brown, abattu par un policier blanc. Des policiers ont procédé mercredi à l'arrestation d'au moins une dizaine de personnes après le refus de certains manifestants qui bloquaient une autoroute de libérer la voie. Environ 150 personnes étaient présentes.
Merci Anne Arbatson, au micro Camille Grosdidier pour Le Monde Aujourd'hui, sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Il est 5h41, temps universel ici à Washington. Référendum la semaine prochaine en Écosse. Les habitants sont appelés à se prononcer sur l'indépendance ou le maintien au sein du Royaume-Uni, qui inclut également l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Les derniers sondages montrent que les deux camps sont maintenant à égalité, signalant une perte de vitesse des tenants du non. Lionel Gahima.
Les leaders de deux principaux partis britanniques faisant front contre la séparation se sont rendus sur place à Edinburgh, la capitale de l'Écosse, le Premier ministre David Cameron. Bien sûr, seul le peuple d'Écosse doit décider de la question, mais je veux qu'il entende comment le reste du Royaume-Uni se soucie de l'issue du référendum et tient à lui dire très clairement « c'est votre décision, mais nous voulons que vous restiez ». M. Cameron a lui-même accepté ce référendum il y a 2 ans. L'Écosse a déjà son propre parlement à Edinburgh, mais ses pouvoirs fiscaux sont limités et Londres décide toujours des questions économiques et de la politique étrangère. Le Parti national écossais au pouvoir, qui dirige le mouvement pro-indépendance, semble gagner du terrain. Il s'agit de savoir si, avec la séparation, l'Écosse sentira mieux économiquement. Quelque 90% des réserves britanniques de pétrole se trouvent sous ce qui serait les eaux nationales écossaises. Et selon Edinburgh, il reste 24 milliards de barils à exploiter, tandis que Londres parle de 15 milliards. Les experts estiment que les revenus potentiels dépendent de trop de facteurs imprévisibles, tels que le développement des technologies d'extraction et les cours mêmes du pétrole. Il faut libérer l'Écosse des chaînes économiques de Londres, estime Kenny Anderson, un tenant du oui. Je ne suis pas sûr que nos propres intérêts économiques soient la priorité de priorité pour le Royaume-Uni. Non pas pour des raisons sinistres, mais tout simplement parce qu'il y a d'autres pressions. Avec l'indépendance, nos propres intérêts seront prioritaires. Le whisky, le pétrole, le gaz, la pêche, l'ingénierie et l'éducation. Ce qui est certain, c'est que le dernier sondage inquiète beaucoup la Grande-Bretagne, dont l'unité, après 300 années, est aujourd'hui menacée par une indépendance éventuelle de l'Écosse.
Camille Grosdidier pour Le Monde Aujourd'hui, bientôt ouverture d'une école de journalisme au Mali. Les travaux du bâtiment qui doit accueillir les futurs journalistes sont en construction. Le ministre de la Communication et celui de l'Enseignement supérieur ont visité le bâtiment. Cette école sera également un centre de recyclage pour les journalistes en fonction et elle sera gérée par l'État malien. D'autres précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication sera ouverte dès la rentrée prochaine. Cette école est située à Dar Salaam. Ce sont les anciens locaux de la Maison de la Presse du Mali qui ont été transformés sur les chantiers. Les travaux sont bloqués, mais il ne reste plus beaucoup de choses à faire. Sadibou Cheikh Diabaté, maître d'ouvrage.
Il reste actuellement les travaux de carrelage, de peinture, les équipements électriques et sanitaires, l'étanchéité et le raccordement électrique par rapport au réseau existant EDM. Mais en attendant, qu'on essaie de voir avec l'entrepreneur pour pouvoir que l'entreprise évolue normalement en attendant vraiment l'acquisition du crédit nécessaire pour la prise en charge du reste des travaux.
La difficulté qu'accuse la réalisation du problème est due au blocage des financements. Mamadou Camara, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Information.
Les travaux sont arrêtés, c'est vrai, mais comme vous pouvez le constater, ils sont déjà bien avancés. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui de finition, donc l'État est en train de faire le nécessaire avec l'entrepreneur en charge des travaux. Effectivement, un entrepreneur travaille avec des financements. Simplement une histoire de déblocage. Il ferons en sorte que les fonds nécessaires à l'accomplissement des travaux soient débloqués dans les meilleurs délais.
Des journalistes professionnels maliens ont de tous les temps été formés à l'extérieur. Récemment, il y a des écoles privées qui ont commencé la formation. Cette fois-ci, c'est l'État qui prendra la formation des journalistes en charge. Maître Moutagatal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Il ne s'agit pas pour nous d'aller vers la répression, mais d'essayer de rehausser les niveaux. Et c'est à cela que l'école va principalement servir. Former des journalistes de très bon niveau, chacun de ces journalistes dans sa rédaction pourrait apporter une plus-value à ce que nous cherchons et à ce que nous souhaitons que la presse soit dans notre pays.
L'ouverture de cette école entre dans le cadre d'un vaste programme du département de la communication. Le ministre Mamadou Camara nous explique.
L'école, c'est un début. Vous savez qu'il y a un vaste projet de réforme du secteur des médias et de la presse au Mali. L'école est une partie prenante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi prochainement la création de la Haute Autorité de la Communication. Il y a les évolutions que nous souhaitons apporter à la loi sur la presse et c'est tout ça qui va conforter la profession de journaliste pour aller vers une professionnalisation, un respect meilleur de la déontologie et de l'éthique et donc un développement harmonieux de ce noble métier dans le cadre du développement national.
Cette nouvelle école est chargée de la formation des journalistes dans les disciplines des sciences de la communication, du recyclage des professionnels de la communication et de la réalisation d'expertises et d'activités de production. À terme, il s'agit d'assainir la profession de journaliste. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Ce jeudi, dans Washington Forum, la menace terroriste en Afrique. Alors que le monde s'inquiète de la présence de l'État islamique en Irak et en Syrie, des Africains vivent chaque jour sous la menace des terroristes. Al-Shabaab, Acmi, Moujao ou encore Boko Haram, ces groupes font peur. Quelle réponse apporter pour les contrer? L'option militaire est-elle suffisante? Nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous jeudi, 19h, temps universel, sur La Voix de l'Amérique.
5h47, temps universel dans les locaux de La Voix d'Amérique. Pas simple la vie d'artiste à Bangui de nos jours. Mais c'est justement dans les temps durs, notamment pendant et après les périodes de conflit, que les troupes artistiques sont mobilisées pour des tournées visant à véhiculer des messages de paix et de réconciliation. Récemment, l'Organisation internationale des migrations et l'Union européenne ont soutenu dans le 5e arrondissement de Bangui un méga concert organisé par la compagnie artistique Asungpa System. Nathalie Barge a joint dans la capitale le fondateur de cette troupe de théâtre musical, l'humoriste centrafricain Dr Mancheke.
C'est un concert qu'on a organisé dans le but de faire participer la population au processus de paix. Vous savez que notre pays traverse un moment très difficile et nous les artistes, nous sommes là pour éduquer, pour sensibiliser, pour conscientiser la population, pour mettre aussi la joie dans le cœur de la population. C'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un méga concert dans le 5e arrondissement.
Pourquoi le 5e, hein? Vous précisez que bon, c'est le 5e parce qu'il y a des problèmes généralement entre communautés là-bas?
Oui, c'est normal de commencer dans le 5e parce que moi-même je suis dans le 5e. Donc il faut commencer d'abord là où je suis avant d'élargir un peu le programme de sensibilisation. Et vous savez bien que le 5e, le 3e et le 8e, c'est vraiment une zone sensible, c'est chaud.
Est-ce que vous pensez que vous êtes parvenu justement à sensibiliser la population qui sera peut-être un peu plus tolérante dans l'avenir par rapport aux différences, à certaines différences religieuses ou communautaires?
Je vois qu'on a fait passer le message parce qu'il y avait du monde. Et, c'est-à-dire que la population était vraiment, vraiment satisfaite de voir les artistes réunis sur un même plateau pour parler de paix. Je pense que le message a été bien passé.
Alors la compagnie Asungpa System, elle comprend donc plusieurs types d'artistes. On a quoi? On a des danseurs, des comédiens, des chanteurs, des musiciens, c'est ça?
Oui, la compagnie fait un peu de tout. C'est-à-dire on fait la comédie et puis on fait aussi la musique. Il y a les danseurs, il y a les chanteurs, il y a les comédiens, les humoristes, il y a les conteurs.
Pour diffuser, faire passer ce message sur Internet, quel type de difficultés rencontrez-vous?
Non seulement il y a un problème de l'électricité, mais il y a aussi un problème de l'argent. Il n'y a pas de financement. On a créé notre bloc. Mmh. Pour véhiculer des informations sur la compagnie. Je me prépare pour passer à la répétition parce que dans 2 ou 3 jours, je vais tourner un film intitulé Le Pardon.
Vous pouvez nous parler de ce film brièvement?
Oui, le film parle des 2 frères qui vivaient ensemble dans un village. L'autre est chasseur et puis l'autre, c'est un bûcheron. il y a un petit problème. Le chasseur est parti consulter le féticheur et puis le féticheur lui a dit que la personne qui veut te faire du mal, c'est celui que tu considères comme frère. Et là, maintenant, ça suscite des réactions. Puis, il y a la guerre entre les deux frères. Avant, ils vivaient ensemble, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a la guerre aujourd'hui? Ils ont essayé de chercher et pour trouver la solution. À la fin, ils se sont réunis après la guerre et ils se sont demandé pardon entre eux.
Au micro de Nathalie Barge, c'était l'humoriste centrafricain Dr Mandjike. On enchaîne avec les sports en compagnie de Nicolas Pineau et on commence avec le football et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Une lourde défaite de la Côte d'Ivoire à Yaoundé.
Oui, au stade Amadou Ahidjo, archi-comble, les Lions indomptables ont emporté 4-1 devant les éléphants. Niger et Aboubakar, auteur d'un doublé pour les Camerounais. Yaya Touré avait réduit la marque pour les éléphants. Jules Lobo a suivi le match à Yaoundé pour la Voix de l'Amérique.
Face aux éléphants de Côte d'Ivoire, les Lions indomptables du Cameroun ont su imposer la loi du domicile. 4-1, un score qui était loin des pronostics, mais qui fait croire que la reconstruction est en marche. Volker Finke, entraîneur du Cameroun.
Il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas normales dans le foot. On a normalisé déjà beaucoup. L'équipe, les joueurs, il faut parler avec le terrain. Ça veut dire, la base, c'est la vérité. Et pour le travail de 9 jours, félicitations aux joueurs. C'était un bon travail.
Avec cette deuxième victoire, les Lions indomptables occupent désormais le premier rang du groupe D avec 6 points au compteur. Malgré cela, l'équipe est consciente qu'il faut travailler davantage. Stéphane Bia, capitaine des Lions indomptables.
Il faut insister sur la mentalité. Je pense que c'est le modèle du coach. L'équipe est très très jeune. Nous allons continuer à travailler. Nous sommes confiants que pour l'avenir, nous aurons des jours meilleurs. Et bien sûr, ça passe par le travail et beaucoup de sérieux.
Prochaine sortie, entre le 10 et le 11 octobre prochain, ce sera contre la Sierra Leone. Yaoundé, Jules Lobo pour la Voix de l'Amérique.
Le fait du match, évidemment, la sortie de Serge Aurier sur civière. À la suite d'un choc à la tête, l'Ivoirien a perdu connaissance et a dû être évacué vers l'hôpital. Tout est rentré dans l'ordre hier soir pour le joueur du Paris Saint-Germain.
Dans ce groupe D, le suspense est relancé pour la deuxième place puisque la RDC l'a emporté contre la Sierra Leone.
2-0 à Lubumbashi, le match avait dû être délocalisé pour cause d'épidémie d'Ebola à Freetown. Moubele et Bokila permettent aux Léopards d'occuper la deuxième place du groupe à égalité avec la Côte d'Ivoire. Écoutons le capitaine de la RDC, Youssouf Moulumbu.
C'est un faux pas qui s'est produit face au Cameroun. On a rectifié le tir aujourd'hui. Je pense que vous l'avez dit, on s'est créé beaucoup d'occasions contre le Cameroun. Après, malheureusement, il y a des coups du sort qui sont gagnés. Donc aujourd'hui, nous, on a gagné. On va se concentrer sur le prochain match. C'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, vraiment, comme je l'ai dit dans les vestiaires, je suis fier de mes joueurs. Et je pense que c'est le début d'une aventure.
Youssouf Moulumbu, capitaine des Léopards.
Et à Pointe-Noire, et les autres Congolais confirment leur beau parcours.
Victoire 2-0 des Diables Rouges face au Soudan. Les joueurs de Claude Leroy sont seuls en tête de ce groupe A avec 6 points. L'Afrique du Sud et le Nigeria se sont neutralisés hier. Match nul, 0-0.
Une autre surprise hier dans le groupe G.
Et oui, la Tunisie qui est allée battre les Pharaons en Égypte, 1-0. Les Tunisiens sont premiers ex aequo ce matin avec le Sénégal qui s'est imposé de belle manière à Gaborone. 2-0 face au Botswana. Et dans le groupe A, réduit à 10, les Maliens se sont inclinés en fin de rencontre. Ablida face à l'Algérie, 1-0. Deuxième défaite en 2 matchs de l'Éthiopie, les Flammes du Malawi s'imposent 3-2. Dans le groupe C, le Burkina a le sourire après s'être imposé hier 3-0 à Luanda face à l'Angola. Les étalons premiers de ce groupe devant le Gabon qui est allé faire match nul 1-1 au Lesotho. Évidemment, c'est la joie dans les rues de Ouagadougou, comme nous l'explique Salif Kabore.
Surprise générale à Ouagadougou, car avant le déplacement des Burkinabés à Luanda, il y avait ceux-là qui ne croyaient pas aux étalons.
C'est quand même difficile. S'ils font plus d'efforts là, ça va aller. La Zambie a été championne, mais elle a échoué.
Pourtant, Aristide Bansé, Jonathan Pitropa et leurs camarades vont redonner totalement confiance au public burkinabé. Réaction après la rencontre.
Vraiment, c'est une grande joie ce soir pour nous, car enfin, on peut dire que les étalons ont une autre image maintenant. Et vraiment, une image qui va avec notre slogan, vraiment le pays des hommes intègres.
Les étalons ont bien joué, à Bansé qui a marqué, à Pitropa aussi.
et je pense que l'Angola n'aurait pas pu battre le Burkina. On est tous fiers et heureux et on va fêter ça comme il se doit.
Lors de la CAN 2012 en Guinée équatoriale, les Palancas Negras avaient battu les étalons de Burkina Faso à Malabo par 2-1. Une sorte de revanche donc pour le Burkina Faso. Seul en tête dans le groupe C avec 6 points, les Burkinabés commencent à y croire. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Dans le groupe E, précieuse victoire du Ghana à Lomé 3-2 sur le terrain des Éperviers. Pourtant, Adebayor avait inscrit le second but au Golais. Les détails de cette rencontre avec Kailos.
L'entraîneur togolais impute la responsabilité de cette défaite à sa défense peu performante. Tchanile Tchakala.
Voir l'assaut de l'attaque ghanéenne, c'était quand même très difficile que ma défense puisse les contenir. Dans notre canet défensif, nous avons eu assez de lacunes où, sincèrement, au niveau de la défense, ça n'a pas du tout marché de notre côté.
Dominés par les Black Stars, les Éperviers du Togo ont voulu croire en un possible match nul après l'égalisation du capitaine Adebayor Chehi à la 76e minute du match, avant de se retrouver cloué par le troisième but ghanéen à 5 minutes de la fin. Voici la réaction du coach Kwesi Appiah du Ghana. Nous savons que le match allait être difficile car le Togo a une bonne équipe. Face au jeu développé par les Togolais, nous avons procédé à des changements tactiques. Nous avons eu beaucoup d'opportunités que nous avons ratées, mais l'essentiel, c'est le résultat que nous avons eu. Avec cette seconde défaite, après celle du Casablanca face à la Guinée le 5 septembre dernier, les chances du Togo s'amenuisent pour la qualification à la CAN 2015. Kailosson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Et le Ghana occupe la deuxième place de ce groupe avec la Guinée, et c'est une surprise. L'Ouganda est première après avoir battu le Sili National 2-0 à Kampala. Dans le groupe F, le Mozambique et le Niger ont fait match nul un partout, ce qui fait les affaires du Cap-Vert qui s'est imposé 2-1 face à la Zambie.
Toujours en football, on parle gros sous en Angleterre.
Oui, Manchester United annonce un revenu annuel record de plus de 540 millions d'euros. La saison dernière, le revenu du sponsoring était en nette augmentation, plus 49% après la signature en juillet d'un contrat de 10 ans avec l'équipementier Adidas pour 940 millions d'euros.
Coupe du monde de basket, eh bien les Américains accèdent aux demi-finales.
La Slovénie a contenu les États-Unis pendant une mi-temps à Barcelone avant de subir leur foudre. Victoire 119-76 pour les Américains. Ils affrontent au prochain tour la Lituanie.
On enchaîne avec la page musicale en compagnie de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Camille. Elle s'appelle Ticas, une jeune mélomane originaire de la Guadeloupe, influencée par plusieurs styles de musique comme le zouk, le gospel ou la soul. Ticas est une artiste à la fois douce et sensible, d'une voix cristalline et sensuelle. Ce matin, on l'écoute en featuring avec Moïna dans sa nouvelle chanson « Doudou réfléchis ».
Doudou, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé?
Roger, alors Ticas est auteur et compositeur, elle donne à ses textes une profondeur calme et chaleureuse.
Oui Camille, son goût et son respect pour la musique la poussent toujours à la perfection. Ticas a participé à plusieurs projets en tant que choriste et continue de se produire dans sa chorale de gospel Sankofa Unit.
Ticas, doudou réfléchi, merci Roger.
De rien Camille, un grand coucou à nos auditeurs qui nous suivent à N'Djamena sur 93.1 FM.
Et bien sûr, vous retrouverez Roger Muntu dans le RM Show à 20h, temps universel.
Ensemble, on va pouvoir t'adorer. Il n'a pas de foi, bébé, mon content.
C'est tout pour le monde aujourd'hui. On abandonne la musique. Merci à Anne Albertson, au micro Camille Gros-Didier sur la Voix de l'Amérique. Et merci à vous tous de nous avoir accompagnés ce matin. Une très bonne journée.